Radio Django. Culture.
Et à 18h45, nous passons à la suite à Cultiver Lausanne. C'est avec toi, Jean-Luc. Bonsoir. Avec le micro, voilà, c'est beaucoup mieux. Bonsoir.
Alors, bonsoir.
Voilà, nous recevons aujourd'hui Leonzio Cherubini, batteur et compositeur, à l'occasion de sa création Un dialecte, qu'il va présenter au théâtre Sévelin 36 du 9 au 12 septembre.
Du 9 au 12 novembre.
Novembre, oui, ce sera mieux. Effectivement, c'est la semaine prochaine. Nous avions déjà reçu Leonzio l'année dernière sur les ondes de Radio Django.
Oui, en effet, c'était à l'occasion du projet sonore visuel M2. Two-way. Bonsoir Leonzio.
Bonsoir.
Cette année, pour cette nouvelle création dialecte, Leonzio sera accompagné de 4 musiciennes et musiciens. Delphine Bouvier au violon, Elisabeth Demerode à la flûte, Manin Pierre-Rambert à la harpe et Olivier Clerc, notre ami Olivier Clerc, qui revient sur scène depuis 2 ans, assez régulièrement, oui. Qui viendra t'accompagner pour ce projet.
Voilà.
Alors, pour vous resituer brièvement, hein, si on n'a pas écouté la dernière émission, ce qui serait une grave erreur, évidemment. Leonzio Cherubini, vous avez de nombreuses activités pédagogiques, entre autres en tant que professeur à la section jazz du Conservatoire de musique de Montreux-Vevey-la-Riviera. Vous avez également participé aussi à la constitution de l'International Association of School of Jazz, fondée par David Liebman, qui a joué à l'époque dans un quintet de Miles Davis.
Tout à fait, oui.
C'est tout ce que vous faites, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, mais c'est pas tout ce que je fais, en effet. Je fais d'autres choses.
Oui, et puis depuis de nombreuses années, hein, ton travail de composition t'a conduit à explorer le monde sonore. Hein. C'est une démarche qui permet d'aborder la complexité, de l'agencement des sons, des bruits, la musique contemporaine ou de l'électroacoustique. Mais en fait, d'où vient cette passion qui permet de bousculer les formes, qui était au-delà de ce que tu faisais avant au niveau du jazz, qui est déjà bien improvisé, puis des musiques très différentes quand même. Mais là, c'est vraiment ce type de musique qui te passionne actuellement.
Qui m'a intéressé, oui, tout à fait. D'où ça vient, c'est un peu compliqué à dire, j'avoue, mais peut-être ça vient de la curiosité ou de l'envie d'explorer, d'avancer dans la vie, quelque part, finalement. Et c'est vrai que je me suis trouvé avec la découverte des notations graphiques des années 50, et deux partitions m'ont particulièrement interpellé, une qui s'appelle Projection 1 et l'autre Décembre 1952. Mais je peux les décrire en deux secondes si je peux.
Allez-y.
Alors, du point de vue visuel, vu qu'il n'y a toujours pas d'image à la radio, alors Projection 1 est une pièce pour violoncelle écrite par Morton Feldman, compositeur, et Décembre 1952 par Earl Brown. Ces gens-là se connaissaient et avaient un peu comme chef de file un certain John Cage du côté de New York. Alors, Projection 1, c'est une partition qui ressemble à une partition, mais qui est faite de manière plus succincte. Ce sont des carrés, des boxes, enfin des boîtes, hein, pour dire en français. Et l'interprète choisit de jouer les sons qui lui semblent le plus appropriés dans un registre donné. L'autre composition, c'est plutôt une peinture. Comme une peinture, et ça ne se lit pas de gauche à droite ni de haut en bas, l'interprète choisit des éléments selon son envie. Voilà, d'une manière très brève.
Oui, parce qu'il y a toute une possibilité, hein, de notation graphiquement. On verra peut-être après, tout à l'heure, que tu décriras mieux ton projet. Mais je pense qu'on va écouter juste un petit extrait de... Enfin, je ne sais pas si c'est une répétition ou c'était déjà un spectacle qui avait été donné.
Alors, ça dépend de quel extrait.
Moi, c'est Idiocratie 2. Idiolecte 2.
Idiolecte 2, oui.
Quel beau lapsus, je ne sais pas d'où il vient.
Je veux rendre lui pauvre, je... Pauvre ange. Mia e inoe, pauvre je... Je veux en lui pauvre je.
Oui, alors ce projet Idiolect hein, se situe dans la continuité de ton travail. Hein, d'ailleurs, tu me dis que c'est le 13e spectacle que tu montes, 13e création au théâtre.
Au théâtre de Sylvain 36, oui, tout à fait.
Alors parle-nous de ce projet sonore hein, qui est quand même très spécifique. Oui. Et puis comment est-il né
Alors, exactement, dans la continuité des créations précédentes, parce que je développe depuis plusieurs années un travail sur les notations graphiques, que j'ai un peu cité tout à l'heure, mais elles sont passées du stade de statique, c'est-à-dire sur papier, à l'écran. Elles sont sur des tablettes, des iPads, pour ne pas les nommer. Et puis, au fait, la partition, elle bouge, elle se meut. Il y a toute une activité qui est possible dans la microstructure et macrostructure, pour employer les termes. C'est-à-dire que tout est contrôlable dans le temps. Et à partir du moment où la musique est un art du temps, c'est important d'avoir un contrôle le plus fin possible sur les événements.
Mais quels événements, justement, sur cette tablette? Comment ça se déroule?
Alors, par page web, je crois que tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'une page Internet. Alors, une page web apparaît, et puis quand elle a vécu sa vie, elle appelle la suivante automatiquement. On a un simple top de départ, et puis tout le concert d'1h10 pratiquement se déroule automatiquement. Une page appelle l'autre, et ainsi de suite.
Et chaque musicien a des pages différentes?
Oui.
À la même page, non?
Non. C'est des pages différentes. Alors, il peut y avoir des moments d'unisson, comme dans la musique, toutes sortes de musique, disons, écrite de manière plus conventionnelle. Mais c'est pensé comme des partitions avec des notes, si vous voulez, en contrepoint. Il y a un contrepoint rythmique dans les choses visuelles.
Et puis, au niveau interaction, comment ça se déroule? Enfin, parce que j'imagine qu'il faut quand même jouer plusieurs fois ensemble pour vraiment décrire, pour
essayer d'interpréter
cette musique.
Oui et non. Ça dépend des interprètes, de leur capacité d'adaptation ou de leur volonté d'entrer dans ce genre de notation. Parce que ce qui est intéressant, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les notes dans l'histoire, mais c'est des sons. C'est-à-dire, il y a toujours un peu ce tiraillement. C'est un certain John Cage que je citais tout à l'heure. À parler, il disait que pour lui, le seul problème avec la musique, c'était les notes. Et en fait, on va, depuis la musique, disons, concrète, toutes les expériences de musique électronique, on va vers le bruit. On a exploré le bruit, on l'explore. Et ce qui m'intéresse, c'est des sons travaillés. Et en fait, le bruit permet la superposition. Je ne sais pas, un claquement de porte, une voiture qui passe, le téléphone qui sonne, c'est des sons auxquels on est habitué, puis ils se superposent et on n'a pas de problème d'oreille au niveau de l'écoute.
Mais tu travailles beaucoup sur les timbres.
Voilà, exactement, sur le timbre, ouais, sur les timbres, tout à fait. Donc on déforme, on travaille sur les sons, déformés, j'aime pas trop. Ouais,
parce que justement, ce qui est intéressant cette année, c'est que tu as travaillé avec le collectif binoculaire,
voilà,
basé à Bienne. Oui. C'est quand même des instruments très particuliers, il y a la harpe, la flûte traversière. Enfin, quelques mots sur ce collectif, comment tu l'as connu et comment s'est instauré ce travail, cette participation, cette collaboration.
Voilà, alors cette compagnie, c'est la base d'une compagnie qui s'appelle Binoculaire, elle est basée à Bienne. L'instigatrice est Manon Pierre-Robert, est une harpiste. Je n'ai jamais joué avec une harpe, je crois que c'est la première fois que je joue avec une harpe. Et puis il y a une flûtiste et une violoniste. Ce sont trois très bonnes musiciennes. Elles ont à peu près la tranche d'âge entre 30 et 35 ans, je dirais, à peu près autour des 35 ans, on va dire. Et donc elles sont très bien formées au niveau de musique classique et de musique contemporaine. Elles évoluent dans des ensembles de musique contemporaine, mais elles se sont intéressées au théâtre musical. C'est-à-dire elles ont eu envie de prendre la parole en jouant ou carrément avoir des rôles de comédienne aussi. Et cette compagnie monte des spectacles où elles sont costumées, c'est du théâtre vraiment.
Et c'est ça qui t'intéressait en fait chez elle ou bien?
Voilà, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'aller vers des instrumentistes qui savent et qui osent parler sur scène. Parce que c'est pas donné à tout le monde.
Donc il y a quand même une certaine narration parmi tous ces bruits, ces agencements de bruit.
Alors il y a la pièce principale, Idiolect, qui dure plus d'une demi-heure, et est basée sur l'interaction voix et instrument pour le trio binoculaire. Ouais.
D'ailleurs, quelques mots sur ce terme, ce concept idiolecte, quand même, pour, où tu as été le chercher.
Idiolecte, ouais.
Quelques mots, comment le définir?
Alors, idiolecte, c'est un mot qui est apparu dans une liste de synonymes que j'avais compilé sur un projet précédent. Et puis, il m'avait tapé à l'œil. Et je l'ai gardé. Et puis après, je me suis intéressé un peu plus sur la signification, parce que j'avoue, je ne la connaissais pas. Et puis, en fait, il s'avère que nous avons tout un chacun trimballe un idiolecte. C'est notre façon de nous exprimer pour entrer en contact avec les autres. Alors, dans ma famille, il y a aussi un rôle dans ma famille. Moi, j'ai des parents qui ont parlé dialecte de Brescia, d'où je viens, toute leur vie entre eux. Ils ont parlé patois, le dialecte de Brescia. Et puis, avec nous, les enfants, ils s'adressaient en italien. Et nous, les enfants, on parlait français entre nous. Donc, quand il y avait quelqu'un d'extérieur à la maison à table, c'était assez rigolo parce qu'on passait du dialecte à l'italien au français à des allers-retours, quoi.
Et comment ça se traduit aux musiques, alors?
Alors, l'idée de l'idiolecte, c'est de... en musique, pour moi, c'est de faire entendre ma voix, je mets ça entre guillemets, au niveau de la composition sur ce travail des notations graphiques, qui est quand même une manière particulière d'organiser les sons. Et c'est un idiolecte prononcé, je dirais, sur ce plan-là.
Et au niveau de ces musiciens qui viennent d'horizons différents, comment ça se déroule là,
ça? Oui, ça se déroule très bien parce que donc le trio binoculaire a une trajectoire musique contemporaine. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la musique contemporaine, quand bien même je ne suis pas un musicien contemporain, dans le sens je ne suis pas interprète de partitions de musique contemporaine. Mais par contre, les sonorités que l'on trouve dans le jazz le plus avancé et la musique contemporaine, c'est des gens qui cherchent les mêmes choses. Au niveau des timbres, on parlait tout à l'heure. Donc ça se passe sans problème.
Donc c'est les ambiances sonores, c'est les durées, c'est le travail sur les 3-4 paramètres du son, quoi.
Oui, 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 tout à fait.
Sur hauteur, durée, etc.
Sur l'essence, oui. Ouais.
On va peut-être écouter le deuxième extrait.
Ah oui, un deuxième extrait.
Quand on est face à cette musique, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'approcher. Pour les auditeurs, les spectateurs qui sont peut-être pas habitués, ou enfin moins habitués, est-ce qu'il est nécessaire de se mettre dans des dispositions particulières, de se préparer, en sachant qu'il n'y aura vraisemblablement pas de lignes mélodiques aussi habituelles qu'on les a peut-être même dans le jazz, ou si même au niveau des rythmes, c'est plus rythme binaire, ternaire, c'est autre chose qui se déroule.
Oui, 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 tout à fait, c'est un temps suspendu, un temps musical suspendu. Il n'y a pas de pulsation qui apparaît régulière, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de conduite harmonique non plus. C'est vraiment d'essayer de produire les sons pour eux-mêmes. Il n'y a pas de dialectique, c'est-à-dire que si je fais un son à la batterie, après quelqu'un d'autre va répondre, après je reviens sur un autre son, mais ce son-là n'a pas de lien direct avec le précédent, je suis ailleurs. C'est un peu comme si on mettait des couleurs sur une toile. Je mets une touche bleue, puis après je décide de mettre un orange. Il n'y a pas de lien au départ, mais il y en a un lien forcément par conséquence. Si sur une toile je mets, je sais pas, un rond bleu, une ligne verte et je sais pas quoi, un carré jaune, après il y aura une conséquence, un rapport de force, plus ou moins heureux de cette drôle de proposition que je viens de faire.
Donc l'important pour les auditeurs, c'est d'accepter d'ouvrir les oreilles et d'écouter.
Oui, c'est la curiosité, c'est de se dire, tiens, je vais voir quelque chose, je vais me laisser surprendre, et puis de ne pas avoir peur d'être déçu à la fin, parce que c'est pas nécessaire. On est dans un drôle de rapport par rapport à la culture en général, pas seulement à la musique, mais à la peinture, à toutes les formes d'expression, c'est qu'on est d'accord d'acheter un billet à condition d'être content à la fin. On est éduqué comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'acheter un billet pour pas savoir sans savoir si on va être content ou pas à la fin. Ce n'est pas le critère, mais c'est devenu le critère. Le critère principal, c'est d'aller voir les choses. Parce qu'à force d'aller voir des choses et de se laisser interpeller, il y a quelque chose qui change probablement dans notre petite tête, voyez-vous.
Oui, la curiosité, toujours.
La curiosité, oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Leonzio Cherubini, d'être venu ce soir nous parler de votre dernière création.
Oui.
Plein succès pour la semaine prochaine.
Oui, merci, oui, semaine prochaine.
Oui, on rappelle que Idiolect est à entendre du 9 au 12 novembre au Théâtre de Sèvlin 36. Toutes les informations concernant cette découverte dont on vous parlait ce soir sur votre site, Leonzio, www.leonzio.ch.
Exact.
Oui, il faut aller explorer le site parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a tous ces graphiques, la musique. C'est vraiment extrêmement intéressant d'aller un petit peu plus loin parce que c'est vrai que c'est pas simple à la radio de pouvoir décrire en fait tout ce qu'il y a derrière ton travail.
Voilà, oui. Si quelqu'un s'intéresse aux notations graphiques, alors j'ai mis de la matière et sur ma démarche personnelle. Ça, c'est peut-être une manière d'entrer dans le projet pour ceux qui préfèrent être documentés à l'avance.
Voilà, ouais, donc effectivement, certains préfèrent peut-être découvrir, comprendre avant d'aller voir et assister. Mais c'est la semaine prochaine. Dépêchez-vous, c'est le conseil qu'on peut vous donner, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. Dépêchez-vous.
Merci beaucoup, Leonzio. Merci également à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet. Un sujet que vous pouvez retrouver sur notre page django.fm.